Vous le savez, il y a des tensions entre... on peut appeler ça comme ça, des tensions entre l'Égypte et Israël. L'Égypte qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée sur son territoire de Palestiniens. Ils ont même, vous l'avez su hier dans nos journaux, on vous disait que l'Égypte avait menacé de rompre les accords de paix avec Israël en cas d'afflux de Palestiniens sur son territoire. Et donc, on parle aujourd'hui de l'Égypte dans à la une dans le monde et du fameux corridor de Philadelphie. Point de discorde entre l'Égypte et Israël, avec Gérard Vespierre, géopolitologue. Il est au micro de Lucie Gilson.
Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Hier, le Caire a haussé le ton à l'égard du gouvernement israélien et a expliqué que, je cite, « si un seul réfugié palestinien traverse la frontière, l'accord de paix sera annulé ». Mais cela fait maintenant un moment que l'Égypte et Israël entretiennent des relations diplomatiques compliquées. Vous en aviez d'ailleurs parlé à notre antenne la semaine dernière. Alors, pour commencer, comment analyser cette déclaration ?
Écoutez, c'est une longue histoire, n'est-ce pas ? Parce que le corridor de Philadelphie a été mis en place à la mise en place également des accords de paix entre Israël et l'Égypte, donc fin des années 70. Et à ce moment-là, effectivement, le corridor était sous la responsabilité israélienne. Et donc, c'est le dégagement d'Israël de la bande de Gaza qui a fait que, dans le cadre de ces nouveaux accords en 2007, eh bien, le corridor a été pris en charge par l'Égypte. Donc, je pense que maintenant, il y a une partie, je dirais, pas de bras de fer, mais une partie dialectique entre l'Égypte et Israël. Donc, Israël demandant, allez, je vais faire court, demandant l'impossible pour obtenir le possible. Donc, l'impossible, c'est de reprendre effectivement les patrouilles sur le corridor en considérant le corridor à nouveau comme un territoire à accès israélien. Et cela étant impossible vis-à-vis de l'Égypte de perdre cette souveraineté, eh bien, en échange, Israël pourrait faire un pas en arrière pour obtenir de l'Égypte la constitution d'un mur souterrain, peut-être pour éviter donc les tunnels et des systèmes très sophistiqués de protection. Donc voilà, je pense que Israël demande le contrôle humain pour obtenir le contrôle de l'architecture et de l'électronique.
Alors, l'Égypte craint que la question du déplacement des Gazaouis ne devienne, je cite, un problème égyptien permanent. De quel effectif parlons-nous ? Et est-ce que c'est une crainte légitime selon vous ?
Écoutez, lequel effectif, qui peut le savoir, n'est-ce pas ? Et je pense que cette pression migratoire potentielle n'est que temporaire. Espérons-le tant que, effectivement, soit un cessez-le-feu ou l'arrêt définitif des combats n'est pas intervenu. Mais à partir du moment où il y a plus de pression militaire et où il y a un ravitaillement, je dirais, possible, régulier vis-à-vis de Gaza, je pense que beaucoup de personnes souhaiteront rester sur place parce qu'ils ont quand même leurs habitats et donc une partie de leurs ressources. Donc, vraiment, le carrefour à franchir, c'est d'obtenir la fin des combats avec, en harmonie ou en parallèle, la restitution des otages. Donc, voilà, à mon sens, il y a ces discussions, effectivement, ces pressions sur des points intermédiaires, mais les deux points essentiels, c'est libération des otages et arrêt des combats.
Et justement, à ce sujet, ça me donne une très bonne transition. Donc, en parallèle, le secrétaire d'État à la Défense, Antony Blinken, il a rencontré le président égyptien au sujet de l'accord de paix sur lequel l'Égypte se positionne comme un acteur important. Donc, quelles sont les dernières nouvelles de cet entretien et comment ça va impacter, comment on peut anticiper des conséquences sur les accords?
Écoutez, on est dans, pour reprendre les célèbres mots et le personnage et l'âge qui nous a quittés d'Henry Kissinger, donc on est dans la stratégie des petits pas depuis ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle la réunion de Paris de dimanche dernier. Donc, il y a effectivement différents interlocuteurs, l'Arabie Saoudite où Blinken a fait un arrêt, l'Égypte maintenant, le Qatar bien sûr qui était à Paris. Donc il y a ce cheminement d'étape par étape. C'est un processus relativement complexe vis-à-vis du Hamas qui n'est pas présent aux négociations. Donc il y a forcément des allers-retours compliqués et des points de vue aussi opposés. Donc un interlocuteur qui ne peut pas être là a des points de vue opposés. Donc le seul remède, c'est les petits pas et le temps. Donc le plus rapide sera certainement quelques semaines ou quelques jours, et puis le plus long quelques mois. Mais il y a bien sûr une pression en Israël pour la libération la plus rapide possible des otages.
Et alors justement, comment l'Égypte navigue-t-elle diplomatiquement entre son soutien à la population gazaouie, son refus du déplacement forcé vers le Sinaï, son opposition aux frères musulmans, tout en cherchant à jouer un rôle de médiateur pour ce cessez-le-feu?
Écoutez, je pense que là, il y a deux champs différents. Il y a le champ arabe et puis le champ médiateur avec Israël. Donc, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est effectivement des relations entre la population arabe de Gaza et la population arabe donc égyptienne. Donc, cela, bon, est bien sûr relativement aisé à comprendre et à maintenir, puisque il y a eu une entente depuis des dizaines d'années et que l'Égypte ne souhaite absolument pas, dans un Sinaï qui a été menacé de déstabilisation, voir venir des populations nouvelles qui pourraient renforcer cette déstabilisation. Donc la position égyptienne est en deux volets, donc vis-à-vis des autres pays arabes. Et deuxièmement, vis-à-vis d'Israël, c'est là où effectivement il y a, comme vous le dites, le champ d'intermédiaire.
Alors revenons maintenant aux accords de paix en soi auxquels l'Égypte fait référence. C'est celui de 1979 qui a signé la fin d'un conflit avec Israël. Y a-t-il des éléments de cet accord qui sont susceptibles d'être remis en question ou annulés, ou c'est des menaces dans le vent?
Non, je pense que comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une pression de la part d'Israël menaçant ou proposant ou demandant plus exactement l'accès au corridor donc de Philadelphie. Et donc eh bien je dirais en réponse l'Égypte prend cette position de s'appuyer sur les accords de 1978-79. D'où est né d'ailleurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, le corridor de Philadelphie. Donc, voyez-vous, il y a un pendant entre les deux arguments, mais je pense que cela n'est pas la partie essentielle des négociations. La partie essentielle des négociations, c'est l'arrêt des combats et la libération des otages.
Oui, du coup, c'est ce que j'allais dire. On comprend aussi que l'Égypte hausse le ton car l'épicentre des combats se rapproche dangereusement de la frontière égyptienne vers Rafah. Peut-elle se permettre de mettre ses menaces à exécution? Je sais qu'en ce moment, il y a des discussions pour construire un mur, enfin.
Oui, je pense, voyez-vous, que vraiment, pardon de me redire, mais la seule façon d'y voir clair et d'apaiser les tensions, c'est d'aboutir dans les prochaines semaines ou en tout cas, enfin, espérons dans les tout prochains jours et potentiellement dans quelques semaines, à un accord de cessez-le-feu long et en tout cas renouvelable et la libération des otages. Si vous avez cela en ligne de mire, à ce moment-là, toutes les éléments intermédiaires de frontières, de contrôle des frontières, n'est-ce pas, est subalterne, est secondaire. Donc l'ensemble des énergies et des efforts, bon, vu d'Israël, c'est de ruiner le Hamas, d'abattre le Hamas, mais je dirais, au-delà de ça, il faut préparer la paix.
Est-ce que vous pensez que justement l'Égypte peut être est en partie incontournable pour préparer cette paix?
Elle est incontournable de deux façons. Elle est incontournable dans l'histoire, car c'est avec elle que s'était établie et s'est établie la première paix, n'est-ce pas? La Jordanie est venue beaucoup plus tard. Donc, c'est vraiment un facteur de stabilisation dans la région et donc un facteur aussi de paix géographique. Ah, puisqu'il y a frontières communes.
Eh bien, Gérard Vespierre, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous et bonne journée.